VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Dakar, 13h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. L'Internet toujours coupé en République démocratique du Congo après les marches de dimanche. Courriel, réseaux sociaux et SMS étaient indispensables dans la capitale Kinshasa ce matin. Les services Internet étaient également coupés dans les grandes villes comme Lubumbashi, Kananga et Kisangani. Les autorités congolaises ont instruit les opérateurs de couper l'accès à Internet dans la nuit de samedi à dimanche, à la veille des marches contre le maintien au pouvoir du président Joseph Kabila. Le ministre des Postes et Télécommunications, Emery Okundji, avait indiqué lundi soir à l'AFP que l'Internet serait rétabli dans les prochaines heures. Et RDC toujours, le patron de l'ONU, Antonio Guterres, demande des enquêtes après la mort de 6 personnes dans des manifestations dans le pays. La secrétaire générale de la francophonie a aussi condamné l'usage de la force. Et l'annonciature apostolique à Kinshasa dit avoir répertorié des tirs à balles réelles qui ont fait 6 morts et 60 blessés pendant les protestations. Plus de détails avec Yakuba Ouedraogo.
Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a demandé aux autorités des enquêtes crédibles après la répression des manifestations dimanche en RDC. Il appelle à traduire les responsables en justice et exhorte les forces de sécurité à faire preuve de retenue et au respect des lieux de culte. De son côté, Michael Jean, secrétaire général de l'OIF, a condamné les violences et demandé qu'elles ne restent pas impunies. Cependant, elle a réaffirmé que la francophonie va poursuivre son soutien aux préparatifs des élections prévues pour le 23 décembre 2018. De leur côté, les autorités parlent de 2 morts et de 9 policiers blessés. Le pape François s'est inquiété dimanche d'un nouvel épisode sanglant dans cette crise politique.
En Afrique du Sud, le Congrès national africain au pouvoir a confirmé avoir discuté du départ anticipé du président Jacob Zuma. Mais aucune date butoir n'a été fixée. Abdourahmane Dia.
Le secrétaire général de l'ANC, S. Magashule, a précisé lors d'une conférence de presse que le sujet d'un éventuel départ anticipé du président Zuma était entre les mains des responsables. Il y aura des discussions entre les responsables du parti, le président Zuma et le président du parti, Cyril Ramaphosa. Il a ajouté qu'il n'y avait pas de décision prise pour renvoyer Jacob Zuma. « Donnez-nous du temps pour discuter de nos problèmes », a-t-il lancé aux journalistes. S. Magashule, lui-même impliqué dans des affaires de corruption, a aussi indiqué que l'ANC était décidé à regagner la légitimité morale et que le parti était entré dans une nouvelle période de renouvellement. Fin décembre, Jacob Zuma a été remplacé à la tête de son parti par l'actuel vice-président du pays, Cyril Ramaphosa, qui avait fait de la lutte contre la corruption son leitmotiv de campagne.
Au Tchad, la police a dit avoir arrêté plus d'une centaine de personnes pour troubles à l'ordre public et destruction de biens suite à une grève massive des transporteurs et à une manifestation de lycéens lundi dans la capitale N'Djamena. Morgane Guiriek nous en dit plus.
Les transporteurs tchadiens ont décidé hier après-midi de lever leur mot d'ordre de grève. Nous allons reprendre les négociations avec le gouvernement jusqu'au 10 février au plus tard. Si rien ne bouge, la grève reprendra, a déclaré Abakar Daoud Adoum, secrétaire général du syndicat des transporteurs. Il a aussi annoncé la libération de 15 transporteurs qui avaient été interpellés hier. Les chauffeurs de taxi, de bus et les agences de voyage ont entamé ce débrayage hier pour protester contre l'augmentation du prix du carburant à la pompe. Des lycéens ont suivi ce mouvement avant d'être dispersés par la police qui a annoncé l'arrestation de 143 personnes, dont 64 élèves. Selon le porte-parole de la police, 10 véhicules ont été endommagés, dont 4 véhicules de la police, en marge de ces violentes manifestations. Des organisations de la société civile ont appelé une marche le jeudi 25 janvier pour protester contre les mesures d'austérité et la hausse du prix du carburant.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Afrique de l'Ouest maintenant, Liberia, l'ancien footballeur de légende George Weah a promis lundi en tant que nouveau président du pays une gestion transparente lors de son investiture à la tête de l'État. C'était la première passation de pouvoir entre président élu libérien depuis 1944. George Weah succède à Ellen Johnson Sirleaf, première femme présidente sur le continent africain. Raissa Girondin a joint Angele Kwemo, stratège de la campagne du nouveau président, pour revenir sur cette journée historique d'investiture.
Premièrement, c'était les chefs d'État, les anciens chefs d'État, surtout les Ghana, Jerry Rowling, John Mahama, et puis le président Obasanjo, bien entendu, et le mouvement de femmes qui sont venues soutenir Madame la vice-présidente Geraldine Taylor. Mais surtout, ce qu'on peut dire, c'est que noter la présence d'une grande masse de jeunes. Le stade était rempli à craquer.
Vous avez parlé de beaucoup de jeunes autour du président Weah pour l'acclamer. Qu'est-ce que ce pouvoir va changer selon eux dans le pays?
Non, je pense que ces jeunes-là, c'est ça la beauté de la démocratie, ces jeunes-là s'identifient au président Weah. Et c'est en cela qu'il a pu vraiment captiver l'imagination de son peuple. Et je pense qu'à cause de son origine, on comprend un petit peu les souffrances de son peuple. Et puis je pense qu'il peut très bien apporter des solutions, ou au moins essayer. Il s'est engagé à faire de son mieux. Et vous connaissez bien le tempérament de M. Weah. C'est un homme qui est très courageux, très déterminé, très passionné pour l'avenir de son pays. Je pense qu'il va s'entourer d'une équipe solide. Il est quelqu'un de très ouvert d'esprit. Il a même invité les partis d'opposition, toutes les bonnes consciences libériennes, toutes les bonnes consciences africaines à contribuer aux sociétés de la nation, en partant des acquis que l'ancienne présidente Ellen Johnson Sirleaf aura laissé.
George Weah a remercié, durant son discours, il a remercié plusieurs fois la présidente sortante. Symboliquement, qu'est-ce que ça signifie?
À mon avis, je pense que c'est un homme de l'avenir. Il ne veut pas regarder le passé. Pour lui, son élection, c'est la victoire du peuple libérien. C'est la transition vers une nouvelle ère. Et ce n'est pas simplement un transfert de pouvoir pacifique, plus ou moins historique, parce que c'est la première fois que ça se fait en plus de 50 ans. Mais surtout, comme il a dit, c'est un transfert d'arrivée d'une nouvelle génération. Et ça veut dire qu'il y aura même un nouveau type de leadership. Les batailles politiques sont finies, la campagne est terminée et maintenant il est en train de l'action.
Vous avez été donc à la base de la stratégie de la campagne de George Weah. Quels ont été les défis face à cette campagne?
Je pense qu'après sa troisième campagne, je pense qu'il a tiré les leçons de ses premières erreurs. Il a gagné en maturité et cette fois-ci, je pense que le peuple libérien sur sa base était plus ou moins responsable. Ils étaient tous engagés, non seulement à obtenir la victoire, mais aussi à préserver la paix.
Angele Kouemo, stratège de la campagne de George Weah, au micro de Raïssa Girondin. Nous passons maintenant à l'actualité ici aux États-Unis. Le président Donald Trump a signé lundi le texte autorisant le financement de l'État fédéral américain jusqu'au 8 février. Le chef de l'exécutif mettant ainsi formellement fin à la paralysie partielle, shutdown, de près de 3 jours des services gouvernementaux. Peu avant, le Congrès des États-Unis avait approuvé ce financement à la faveur d'un accord entre démocrates et républicains, où les premiers ont reçu l'assurance des seconds d'un prochain débat sur l'avenir de jeunes migrants clandestins. Les détails avec Jacques Aristide.
Ce vote a été rendu possible par un accord conclu entre le chef de file de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, et celui de la minorité démocrate, Chuck Schumer. Les démocrates insistaient à l'origine pour que toute loi prolongeant le financement de l'administration fédérale inclue une protection pour les jeunes migrants clandestins arrivés aux États-Unis alors qu'ils étaient mineurs et qui bénéficient pour quelques semaines encore d'un programme pour empêcher leur expulsion. Après l'accord avec McConnell, Schumer s'est dit confiant dans le fait qu'une loi protégeant les Dreamers pourrait être votée d'ici quelques semaines et obtiendrait les 60 voix sur 100 nécessaires au Sénat. Le premier shutdown de l'ère Trump aura donc duré 3 jours, le dernier qui remonte à 2013, sous l'administration du président démocrate Barack Obama, avait duré 16 jours.
Offensive turque en Turquie, des combats meurtriers ont opposé lundi les forces turques aux combattants kurdes dans le nord du pays, au troisième jour d'une offensive que le président turc Recep Tayyip Erdogan s'est dit déterminé à poursuivre. Baptisé Rameau d'Olivier, cette offensive lancée samedi par l'armée turque et menée avec des rebelles syriens pro-Ankara vise à déloger la milice kurde syrienne des unités de protection du peuple, considérée par Ankara comme un groupe terroriste, mais soutenue par les États-Unis. Et pour terminer, décès du trompettiste sud-africain Hugh Masekela, la légende de star sud-africaine du jazz. C'est ce qu'a annoncé sa famille, entraînant une pluie d'hommages pour saluer sa longue carrière et son engagement anti-apartheid. Un baobab est tombé, a réagi le ministre sud-africain de la culture, Nathi Ntewa. La nation a perdu un musicien d'exception dans la mort de Hugh Masekela, décédé ce mardi à l'âge de 78 ans des suites d'un cancer. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.